Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 34. Si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé jusqu'ici dans le récit de l'évangéliste Matthieu, dans ce livre qu'il a écrit, qui est le premier du Nouveau Testament, je vous renvoie au site internet de l'Église où les enregistrements de ces prédications peuvent être écoutés. Alors, Évangile selon Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les douze et leur dit en chemin: « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit: « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit: « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. C'était la parole inspirée de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci infiniment pour ta parole qui est la vérité et au moyen de laquelle tu comptes nous sanctifier, nous faire grandir dans la foi, te révéler à nous. Seigneur, accomplis cela donc ce soir par la puissance de ton esprit, car nous te le demandons humblement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, quelles sont vos ambitions dans la vie? Qu'est-ce que vous espérez réaliser dans votre vie avant de quitter ce monde? Les enfants, je vous pose la question à vous aussi. Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie avant de quitter ce monde un jour, comme nous devons tous le faire un jour? Si vous êtes encore jeune, vous espérez peut-être plus tard trouver un emploi épanouissant. Si vous êtes un jeune adulte célibataire, vous espérez peut-être un jour épouser le conjoint de vos rêves. Vous espérez peut-être fonder une merveilleuse petite famille, acheter une maison au bord d'un lac ou sur le flanc d'une montagne. Vous espérez peut-être, si vous êtes déjà dans la vie active, vous espérez peut-être vous assurer une retraite confortable. Peut-être que vous espérez pouvoir voyager un jour, parcourir le monde et découvrir de nouveaux horizons. Peut-être que vous espérez un jour acquérir même une certaine notoriété et avoir une influence sur le monde. Peut-être en enregistrant un CD ou en tournant un film qui aura un grand succès. Moi, mon ambition, je vais vous le dire, mon ambition, ce serait d'écrire un livre qui rencontrerait un vrai succès et au travers duquel je deviendrais connu et respecté. Et un jour, je serai un des orateurs principaux dans une grande conférence chrétienne qui aurait lieu, par exemple, tous les 2 ans près de Genève. Bref. Et puis, pendant ce temps, mon église aura grandi et sera devenue la première méga-church réformée évangélique en France. Et j'entrerai dans les annales de l'histoire de l'église. Ce serait bien, non, d'arriver à la fin de sa vie et de se dire « J'ai pu réaliser tout ce que j'espérais. » Mais, si finalement votre vie ne ressemblait pas à ça, en dépit de vos meilleures intentions et de vos plus grands efforts, qu'est-ce que ça vous ferait? Si finalement vous n'arriviez pas à trouver l'emploi que vous recherchez, si finalement vous ne rencontriez jamais quelqu'un qui devienne votre conjoint, ou si vous vous mariez et qu'ensuite votre conjoint tombait gravement malade, ou devenait gravement handicapé, et vous deviez vous occuper de lui ou d'elle pour le restant de vos jours ou de ses jours, en oubliant vos rêves d'une maison au bord d'un lac ou sur le flanc d'une montagne. Et si votre retraite, finalement, vous la passiez à l'hôpital à lutter contre le cancer? Et si vous n'aviez finalement jamais les moyens de voyager et de parcourir le monde? Et si finalement personne ne s'intéressait jamais à mon livre? Et si je n'étais jamais célèbre? Et si mon église ne grandissait jamais? Et si mon ministère finissait en eau de boudin, comme on dit? Comment je le vivrais? Et notamment en tant que croyant, qu'est-ce que ça ferait à ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça ferait à ma relation avec Dieu? En fait, je suis prêt à parier que si vous avez plus de 20 ans, vous avez déjà été confronté, peut-être même plus jeune que ça, hein, mais vous avez déjà été confronté d'une façon ou d'une autre à la réalité d'une vie qui n'est pas ce que vous espériez. Et vous avez déjà dû faire le deuil de certaines aspirations, de certaines ambitions, de certains rêves. Pour certains d'entre vous, je pense que cela a même été une véritable lutte intérieure, une souffrance intérieure, douloureuse. Si vous êtes croyant, vous avez peut-être douté de Dieu. Peut-être que vous avez eu presque des sentiments d'amertume dans le cœur contre lui. Peut-être même l'avez-vous vécu comme une véritable crise existentielle à un moment dans votre vie, ou peut-être à plusieurs moments dans votre vie. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par là. La mauvaise nouvelle, c'est que pour ça, il va falloir que vous changiez de perspective sur votre vie, et ça, c'est quelque chose qui ne viendra pas naturellement, qui ne peut pas même vous venir naturellement. Et en fait, c'est toute la leçon du texte qu'on vient de lire. C'est un texte qui, j'espère vous le montrer ce soir, pointe notre égocentrisme. Alors les enfants, égocentrisme, c'est quand on est tout préoccupé par soi-même, par nos besoins, par nos désirs, par nos souhaits, par nos rêves. Et donc c'est un texte ici qui pointe notre égocentrisme, c'est-à-dire la recherche effrénée de notre intérêt personnel. Et le texte, en pointant notre égocentrisme, compte aussi remédier à notre égocentrisme, tout simplement en nous faisant considérer Jésus-Christ. Que vous soyez chrétien ou pas, en fait, aujourd'hui, et si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes le bienvenu, on est ravis que vous soyez là, mais que vous soyez chrétien ou pas, la leçon de ce texte, finalement, est la même. Par nature, nous sommes excessivement préoccupés par nos intérêts personnels. Mais avec Jésus, on peut être délivré de ce type d'aveuglement qui, en fin de compte, nous tyrannise. Et la première chose que le texte veut nous faire comprendre, le texte qu'on a lu, versets 17 à 19, qui parle des souffrances du Christ, la première chose que le texte veut nous faire comprendre, c'est que si nous suivons Jésus, nous marchons dans les pas de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Le fait que nous devrions suivre Jésus a déjà été clairement établi dans le texte de l'Évangile selon Matthieu, dans les 19 chapitres précédents et demi, parce que depuis le début de son Évangile, Matthieu nous a déjà présenté Jésus comme étant le Messie, le Sauveur du monde, tant attendu par le peuple juif. Et donc, nous devrions le suivre à cause de qui il est. Donc ça a déjà été établi. Mais depuis le chapitre 16, donc c'est quand même assez loin dans le récit, depuis le chapitre 16, maintenant l'auteur nous rappelle dans son récit assez régulièrement par des rappels ponctuels qui ponctuent son récit, il nous rappelle que Jésus a annoncé d'avance à ses disciples le chemin qu'il allait suivre pour accomplir sa mission. On a compris qu'il était le Messie, qu'il avait une mission à accomplir, mais à partir du chapitre 16, maintenant on commence à comprendre par quel chemin il allait accomplir sa mission et établir son règne au profit des croyants. Et ce chemin, c'est celui de sa passion. Passion, c'est un terme un peu poétique qu'on emploie pour désigner les souffrances de Jésus. Donc ce chemin, c'est au travers de sa passion et de sa mort. Et donc ici encore, versets 17 à 19, l'auteur insiste, mais ce n'est pas la première fois dans son récit, mais il insiste sur le fait que la souffrance est caractéristique de la mission du Messie, Jésus-Christ. Ce que l'auteur veut, c'est que nous pensions à Jésus aujourd'hui, en 2016, que nous pensions encore à Jésus comme à quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et qui a beaucoup souffert, non pas par accident, tiens, c'était pas prévu, zut, un petit accident de parcours, mais précisément qui a souffert en raison de sa mission de Messie. Ses souffrances font partie intégrante de sa fonction en tant que sauveur du monde. C'était le chemin à prendre pour accomplir sa mission et établir son règne au profit des croyants. Si nous suivons Jésus, donc, nous marchons dans les pas de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et cela devrait conditionner notre perception de notre propre vie. Si j'appartiens à Jésus, j'appartiens à un royaume, celui de Jésus, à un royaume dont le chef a des cicatrices. Imaginez une élection présidentielle où vous auriez plusieurs candidats et vous examinez le CV de ces différents candidats. Et il y en a un qui a eu une brillante carrière dans le monde de l'entreprise. Un autre qui a été ministre pendant de nombreuses années et qui a conseillé plusieurs présidents. Un autre encore qui serait une célébrité dans le monde du showbiz. Et puis un autre qui a été en prison pour ses idées, qui a été battu et torturé, et qui porte même sur son visage, et vous pouvez le constater sur chaque affiche dans la rue, qui porte même sur son visage les stigmates des supplices qu'il a subis. Et imaginez que vous souteniez ce candidat-là. Je pense que ces souffrances auraient un effet, n'est-ce pas, sur votre perception de votre propre vie et de la politique et du monde. De façon un peu similaire, l'auteur ici veut que les souffrances de Jésus, qui sont inhérentes à sa mission en tant que Messie, il veut que les souffrances de Jésus aient un effet sur notre perception de notre propre vie et de la vocation chrétienne en général. Nous suivons un maître qui est appelé dans l'Ancien Testament homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est caractérisé par ces choses, vous voyez? Nous marchons dans les pas de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Comment pourrions-nous maintenant nous indigner de nos propres souffrances, comme si c'était injuste ou anormal, comme si nous valions mieux que Jésus? Un passage similaire dans Marc 8, verset 31, le théologien Don Carson fait remarquer que Jésus, en annonçant ses souffrances, n'explique pas toujours que ses souffrances ont une portée expiatoire, c'est-à-dire qu'à travers ses souffrances, il va payer pour les péchés des croyants. Parfois, il présente ses souffrances, il annonce ses souffrances avec une autre visée, un autre but. Et ici, notamment, Il annonce ses souffrances, je cite Don Carson, pour établir le modèle de nos souffrances en tant que disciples de Jésus, personnes qui allons marcher à sa suite. Parfois, il y a cet effet pédagogique pour ses disciples. Il annonce d'avance la couleur, si vous voulez dire, si vous voulez. Il annonce la couleur. Vous voyez, s'il y a un modèle que Jésus a établi pour la vie chrétienne, qui est vécu à la suite du Maître, ce n'est pas le modèle des miracles et des guérisons et des bienfaits matériels. Non, ce n'est pas ça le modèle que Jésus établit. Même si Dieu, bien sûr, peut nous accorder ses bienfaits dans sa grâce. Mais le modèle que Jésus établit, c'est d'abord le modèle des souffrances qu'il a subies. Il a été livré, abandonné, battu, humilié, on s'est moqué de lui. Il a été crucifié, mis à mort. Donc il est bon pour nous, pour notre piété, de nous souvenir des souffrances du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est un de ces titres que l'on donne au Messie, qui est donné au Messie dans l'Ancien Testament et que Jésus reprend à son compte. Et en nous souvenant des souffrances de Jésus, il y a déjà là un remède à notre égocentrisme. Et cette idée est confirmée dans la suite du passage à partir du verset 20 et versets 20 à 23. Et là, la deuxième chose que le texte nous fait comprendre, c'est que nous sommes capables d'être véritablement aveuglés par la recherche de notre intérêt personnel. Ce genre de choses peut vraiment nous aveugler. Et ce qui se passe dans le texte est frappant et en quelque sorte c'est tragicomique. C'est tragique et un peu drôle en même temps. Jésus vient juste de parler en détail de ses souffrances, des souffrances qui l'attendent à Jérusalem, et ils sont sur le chemin de Jérusalem. Et immédiatement après, dans le texte, deux des disciples font une demande à Jésus qui est complètement déplacée. Ils aimeraient avoir les meilleures places dans le royaume de Jésus. Et le fait qu'ils se fassent représenter par leur maman, bonne fête maman, c'est approprié pour aujourd'hui. Le fait qu'ils se fassent représenter par leur maman sert, à mon avis, à souligner combien cette demande, elle est ridicule, en fait. Et quelque part, je pense qu'ils le savent, au fond. Ils n'osent pas tellement s'adresser directement à Jésus. La réponse de Jésus montre que ces deux disciples sont en effet complètement à côté de la plaque. Ce que Jésus leur dit, verset 22, « Vous ne savez ce que vous demandez ?» C'est tellement absurde. Vous êtes tellement à côté de la plaque, vous ne savez même pas ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous demandez. Jésus poursuit en pointant de nouveau ses souffrances et il est en train de leur dire en quelque sorte, mais est-ce que vous avez bien écouté? Est-ce que vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous avez compris ce que cela voulait dire de marcher à la suite du Messie souffrant? De marcher à ma suite? Je viens de vous dire quel est le chemin que j'allais emprunter. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Et la suite, parce que ensuite on a une autre réponse de la part de ces deux disciples, les fils de Zébédée, et bien la suite souligne l'outrecuidance, l'impudence, voilà les enfants, vous pouvez noter ces mots, hein, outrecuidance, c'est bien à placer au Scrabble, souligne l'outrecuidance, l'impudence, l'effronterie, la prétention, ou plutôt, et tout simplement, l'aveuglement des disciples qui disent « Mais oui, nous pouvons marcher à ta suite. Mais oui, nous pouvons boire ta coupe. » La coupe désignant les souffrances auxquelles Jésus serait soumis. On est prêt à y aller, Seigneur. Bien sûr. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Dans le passage parallèle dans l'évangile selon Luc, l'auteur précise même, juste après que Jésus ait annoncé les souffrances qu'il allait subir à Jérusalem, l'auteur ajoute ce verset qu'on n'a pas ici dans Matthieu. Il dit ceci, « Ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » Bon, c'est clair. Les disciples sont aveuglés. Ils sont à côté de la plaque. Et donc l'auteur est en train d'attirer notre attention sur l'aveuglement, cet aveuglement des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui sont pourtant des disciples de Jésus. Qu'est-ce qui les préoccupe en réponse à l'annonce des souffrances de Jésus? Qu'est-ce qui les préoccupe? Leur intérêt personnel. Ils veulent être assis à droite et à gauche du Seigneur dans son royaume. C'est aussi déplacé que si un ami m'appelait un jour pour me dire « Écoute Alex, j'ai des soucis ». Demain, je vais chez le médecin pour faire examiner une tumeur douloureuse que j'ai sous le bras et je suis vraiment très inquiet. L'après-midi, j'ai une réunion pour essayer de régler un horrible conflit que j'ai avec un collègue de mon entreprise. J'essaierai quand même de rendre visite à ma mère qui est mourante. Ça va être une journée difficile, surtout que c'est l'anniversaire de la mort de mon petit frère. Et imaginez que je lui réponde Au fait, est-ce que tu penses que tu pourrais m'obtenir des places pour le match de l'OL demain soir? C'est déplacé, non? On est d'accord? J'espère qu'on est d'accord. Et mais c'est un peu ce qui se passe dans le texte. Où sont les préoccupations des fils de Zébédée dans le texte? Lorsqu'ils entendent Jésus parler de ses souffrances à venir bientôt à Jérusalem. C'est aussi ce qui se passe dans notre propre vie. Lorsque nous nous disons disciples de Jésus-Christ, disciples de l'homme de douleur, et qu'en même temps nous élevons nos intérêts personnels par-dessus le reste, et nous nous indignons quand la satisfaction de nos désirs nous est refusée. L'auteur nous montre ici que nous sommes capables d'être véritablement aveuglés par notre recherche de notre intérêt personnel. Ça peut constituer un aveuglement, un terrible aveuglement. Et donc, je vous pose la question, je me la pose aussi. Quelle importance accordez-vous dans votre vie à la satisfaction de vos désirs et de vos ambitions? Est-ce que ce serait peut-être un peu trop d'importance? Un peu trop d'importance? Est-ce que c'est ça qui vous conduit, qui vous contrôle même peut-être dans certains domaines de votre vie? Et comment réagissez-vous lorsque vous devez réviser vos rêves, revoir à la baisse vos ambitions, vos espoirs? Est-ce que dans ces moments-là, confrontés à la réalité, est-ce que vous le prenez mal? Est-ce que vous le vivez mal? Est-ce que vous luttez contre le mécontentement et l'amertume? Peut-être même l'amertume contre Dieu. Si vous êtes chrétien, j'espère que vous voyez le décalage qui existe entre votre allégeance prétendue à Jésus-Christ et cet égocentrisme qui nous aveugle si facilement. Et regardons la suite du texte, versets 24 à 28 maintenant. La troisième chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que la vie chrétienne est censée être l'antithèse de l'égocentrisme. Les enfants, antithèse, ça veut dire le contraire, complètement le contraire de l'égocentrisme. Ce qui se passe dans le texte, à partir du verset 24, c'est que l'auteur associe maintenant les autres disciples, les 10 autres disciples, à l'aveuglement des fils de Zébédée. Et il raconte que Jésus va saisir cette occasion pour leur enseigner à tous une leçon importante. Le texte dit que les autres, les 10, sont indignés contre les 2 fils de Zébédée, contre Jacques et Jean. Moi, je pense qu'ils sont indignés, pas parce qu'ils sont d'accord avec Jésus, mais parce qu'ils ne sont pas contents que les 2 autres ont voulu les doubler. Jésus saisit cette occasion pour leur enseigner à tous une leçon importante. Il leur dit que leur ambition en tant qu'apôtre et donc futur responsable dans le royaume de Jésus, futur fondement de l'Église chrétienne, leur ambition ne devrait pas être d'occuper un rang élevé, mais plutôt de servir les autres. Telle devrait être leur ambition. Servir les autres, comme des serviteurs, comme des esclaves. Il emploie des termes forts ici. Jésus oppose ensuite 2 modèles. 2 modèles possibles. D'une part, le modèle qui nous vient naturellement en tant qu'êtres humains et qui est celui dans le texte des chefs des nations, c'est-à-dire des hauts responsables dans le monde, qui recherchent leur intérêt au détriment des gens autour d'eux, qui les dominent donc, qui les tyrannisent. Et de l'autre côté, il y a cet autre modèle, un modèle complètement contre-intuitif, qui ne nous vient pas du tout naturellement, qui est le modèle du Messie, le modèle du roi, du Seigneur Jésus-Christ. Il est roi lui aussi, il est chef, comme les chefs des nations de ce côté. Lui, le Messie, il est chef de son royaume. Mais lui, il ne gouverne pas comme les autres. Lui, il recherche d'abord l'intérêt des autres et même par-dessus le sien. À un tel point que le Messie, lui, le Seigneur Jésus, a même offert sa vie en rançon pour les autres, pour d'autres gens, pour d'autres personnes. C'est ce que dit le texte. Et donc, la véritable dignité dans le royaume de Jésus consiste à imiter le roi, imiter le chef de ce royaume, et donc à renoncer à nos intérêts propres au profit du service, à l'image de Jésus. Donc, le texte sous-entend quelque chose de vraiment radical ici, quelque chose que l'auteur ne suppose pas que nous allons accepter sans sourciller. C'est vraiment radical. Il est vraiment en train de dire, écoutez bien, que le remède à notre égocentrisme consiste tout simplement à renoncer à notre vie. Essayons de comprendre. Quand Jésus se présente dans le texte, quand il se présente lui-même comme un modèle, il est en train de pointer vers le fait, quand il parle de s'offrir en rançon pour beaucoup, il est en train de pointer vers le fait que par nature, nous autres, êtres humains, Jésus étant la seule exception dans cette catégorie d'êtres humains, nous autres êtres humains, nous sommes captifs et nous avons besoin que quelqu'un paye une rançon pour notre délivrance. Nous sommes captifs en effet de ce que la Bible appelle le péché, qui fait que nous sommes séparés de Dieu et même passibles de son juste jugement. Et Jésus dit ici qu'il est venu dans notre intérêt. Et pour cela, il a payé très très cher. Il a payé un prix très élevé. Il s'est dépouillé volontairement de la gloire qu'il avait éternellement au ciel avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Il s'est dépouillé volontairement de cette gloire. Il s'est humilié, nous dit la Bible. Il a pris la condition d'un esclave même. Il a obéi comme un serviteur. Il a souffert jusqu'à la croix où il est mort. Et il a fait cela pour prendre sur lui le châtiment qui était réservé à nos péchés. Et c'est comme ça, vous voyez, que Jésus peut dire qu'il allait, et maintenant qu'il a payé la rançon de la délivrance de tous ceux qui se confient en lui. Maintenant, Jésus est ressuscité, et par la foi en lui, nous sommes associés à sa mort et sa résurrection, de sorte que nous entrons au bénéfice d'une vie nouvelle, d'une vie éternelle qui, en fait, est la vie de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est donc pas déraisonnable de supposer qu'en recevant une grâce si extraordinaire, qu'en étant mort et ressuscité avec le Christ, je ne sais pas si vous mesurez la gravité, la solennité de ces termes, en plaçant notre foi en Jésus, nous sommes associés à sa mort et à sa résurrection comme si nous-mêmes nous étions morts et ressuscités avec lui, avec Christ, le Fils même de Dieu, fait homme. Étant mort et ressuscité avec Christ par la foi, ce n'est pas déraisonnable de supposer qu'alors nous cessons d'occuper le centre de notre vie et que c'est Jésus le Christ qui va occuper le centre de notre vie, à notre place en quelque sorte. C'est quand même pas déraisonnable de supposer cela, n'est-ce pas? Et donc quand Dieu nous invite à renoncer à notre vie et à mourir à nous-mêmes, pourquoi ne le ferions-nous pas? Franchement, pourquoi on ne le ferait pas? Mourir à nous-mêmes, c'est mourir à notre ancienne nature, à cette nature pécheresse qui faisait de nous les ennemis de Dieu, qui nous aveuglait et qui nous conduisait droit vers la mort et vers le jugement. Pourquoi on n'y renoncerait pas? Pourquoi on ne mourrait pas à nous-mêmes? Renoncer à notre vie, c'est renoncer à une vie dysfonctionnelle, une vie brisée, une vie qui nous tyrannise parfois, une vie éphémère. Pourquoi on n'y renoncerait pas? Mais c'est comme se jeter à la mer quand on est sur un bateau en flamme. Ça paraît logique, et pourtant c'est difficile à faire. C'est pas évident à faire. On peut pas dire que c'est facile. Alors j'étais très touché cette semaine par le témoignage d'un pasteur anglican qui est intervenu pendant ce fameux séminaire auquel plusieurs d'entre nous avons assisté cette semaine. Ce pasteur nous a raconté la façon dont il s'est rendu compte en tant que jeune homme qu'il éprouvait de l'attirance pour d'autres hommes. Dieu l'a convaincu que la fidélité à l'Évangile impliquait qu'il vive dans le célibat et la chasteté. Et il a dit ceci dans le cadre de son témoignage, qui était aussi une prédication. Il a dit, et il parlait en connaissance de cause, vous voyez, c'est pour ça que j'étais aussi touché. Il dit, mourir à soi-même, c'est se dire souvent non à soi-même. Non à ce que nous pensons être notre identité. Non à nos ambitions et à nos rêves. On va avoir l'impression que suivre Jésus, c'est comme perdre la vie. Dans l'expérience de tout disciple, dit-il, Jésus va, à certains moments, pointer du doigt quelque chose de sacré dans notre vie et il va nous demander de lui offrir en sacrifice. Vous voyez, la vie chrétienne est censée être l'antithèse de l'égocentrisme en raison de ce que Jésus a fait pour nous. En retour de sa grâce, nous devrions vivre sans réserve à son service, en étant tournés vers lui et vers les autres, plutôt que vers nous-mêmes. Et ainsi, nous serons toujours reconnaissants et satisfaits de la part qui nous revient sous le soleil. Facile? Ben non. Non, c'est pas facile et c'est pourquoi il y a encore une partie à ce texte. Versets 29 à 34. La dernière chose ici qu'on découvre à travers ce texte, en effet, c'est que le remède à notre égocentrisme débute par notre contrition. Par notre contrition. Les enfants, la contrition. Les enfants. La contrition. C'est quand on est triste de ce qu'on a fait, triste de notre état, surtout par rapport au mal, triste d'avoir commis le mal, triste d'être démuni face à nos péchés. Alors je ne sais pas si ça vous a frappé lorsqu'on a lu le texte, mais il y a un parallèle évident que l'auteur veut faire entre les deux fils de Zébédée au début de cet épisode et les deux aveugles à la fin de cet épisode. Dans les deux cas, Jésus est confronté à deux personnes qui ont une requête. Et dans les deux cas, Jésus leur pose la même question: que voulez-vous? Mais il y a un contraste saisissant. D'abord, entre la manière d'aborder Jésus, vous avez d'un côté les fils de Zébédée qui vont aborder Jésus discrètement à travers leur maman, pensant que ce sera peut-être un peu plus diplomatique. Puis d'un autre côté, vous avez deux personnes au milieu d'une foule qui crient. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! Contraste saisissant. Puis un contraste encore entre leurs deux réponses à la question de Jésus, qui leur demande ce qu'ils veulent. Les fils de Zébédée, donne-nous une place de choix dans ton royaume. Les deux aveugles, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Contraste aussi, et enfin, entre les deux réactions de Jésus, ayant entendu cette demande. Le reproche d'un côté, verset 22, vous ne savez ce que vous demandez. Et avec les deux aveugles, le texte précise, verset 34, que Jésus est ému de compassion. Ému de compassion. Et bien sûr, il accède à leur demande et il les guérit. Alors bien sûr, il y a là le récit d'une véritable guérison miraculeuse, mais l'auteur a voulu aussi utiliser cette histoire comme illustration et en quelque sorte comme résolution de cet épisode. L'égocentrisme qui aveugle les fils de Zébédée doit céder la place à la prise de conscience de cet aveuglement, et donc à la contrition, et donc à l'imploration du secours de Jésus. J'aurais bien aimé vous trouver une super illustration pour ce point. Mais il n'y a pas de meilleure illustration que celle du texte ici. Est-ce que vous avez déjà considéré votre condition en tant qu'être humain déchu et dysfonctionnel comme étant la condition d'un aveugle? D'un aveugle de naissance. Vous êtes aveugle-né, et bien que vous ayez conscience d'exister, vous avez conscience qu'il y a des choses à voir, vous ne savez pas pour autant ce qu'il y a à voir, puisque vous ne l'avez jamais vu. Et vous êtes complètement démuni face à cette infirmité. De même, nous sommes par nature aveugles spirituellement. Nous avons peut-être l'intuition qu'il y a plus à notre existence que seulement ce que nous sommes capables de percevoir par nos autres sens. Mais nous ne pouvons pas nous éclairer, nous ne pouvons pas nous ouvrir les yeux, nous ne pouvons pas nous instruire nous-mêmes. Nous vivons par conséquent dans le noir, une vie centrée sur nous-mêmes. La question est donc, est-ce que vous aujourd'hui vous avez conscience d'être infirme spirituellement? Voilà qu'on vous parle de quelqu'un, peut-être ce soir que c'est la première fois qu'on vous parle de quelqu'un qui a le pouvoir de guérir votre infirmité spirituelle, qui a le pouvoir d'ouvrir vos yeux, qui a le pouvoir de vous éclairer et de vous sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle réaction plus logique alors, si vous entendez cet appel, quelle réaction plus logique que la contrition, c'est-à-dire reconnaître sans réserve que oui, vous êtes démunis face à votre infirmité. Et alors vous vous jetez aux pieds de Jésus en implorant son secours, le secours que lui seul peut vous donner. Il peut vous délivrer de cette vie dans le noir. Il peut vous délivrer de cette tyrannie qui est cette vie centrée sur vous-même et sur vos aspirations et sur vos rêves et sur vos désirs qui ne sont jamais assouvis en fait. Il peut vous en délivrer. Et peut-être en effet que vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui. Comme je le disais, on est tellement content que vous soyez là. Il se peut que pour la première fois, vous soyez ce soir en train de vous rendre compte que vous avez besoin de Jésus. Peut-être que vous êtes chrétien, mais vous vous rendez compte ce soir que depuis quelque temps, vous vivez pour vous-même, en étant mû par la recherche de votre intérêt personnel, au lieu de vivre la vie du Christ, littéralement la vie chrétienne, en sacrifice à Dieu. Dans les deux cas, Dieu vous invite à lui demander pardon humblement, et à vous approcher de Jésus qui est rempli de compassion pour vous et qui accorde toujours son secours au cœur humble et contrit. Je conclus. Quelles sont vos ambitions dans la vie? Qu'est-ce que vous espérez réaliser avant de quitter cette terre? Et comment réagissez-vous lorsque vos projets et vos rêves sont détruits par la réalité? Nous avons du mal, n'est-ce pas, à gérer ces déceptions. Nous avons du mal à accepter la part que Dieu nous donne souverainement sous le soleil. Nous avons du mal à lui dire merci lorsque nous sommes déçus par le contenu du cadeau. Même en tant que chrétiens, nous avons du mal à prendre notre croix et à marcher à la suite de Jésus dans la reconnaissance et la foi. C'est parce que nous sommes par nature égocentriques, préoccupés que nous sommes par notre intérêt personnel, par notre épanouissement, bref, par notre bonheur ou par ce que nous pensons être notre bonheur. Mais ce texte, j'espère que vous avez pu le voir ce soir, a voulu remédier à notre égocentrisme tout simplement en nous faisant considérer Jésus-Christ, en nous faisant considérer le Seigneur et Sauveur, le Messie souffrant, le Roi serviteur, celui qui a tellement été l'antithèse de l'égocentrisme qu'il a donné sa propre vie en rançon pour la délivrance de plein de gens, des gens qui en fait étaient ses ennemis. C'est le comble pour un roi de donner sa vie en rançon pour délivrer ses ennemis. Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de nous rappeler combien, d'une part, nous sommes aveugles par nature à cause de notre égocentrisme et combien nous avons besoin du secours de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, par la puissance de ton Esprit, crée en nous ce cœur humble et contrit. Fais-nous ressembler aux aveugles de ce texte, plutôt qu'aux fils de Zébédée, aux aveugles physiques plutôt qu'aux aveugles spirituels, à des aveugles qui ont conscience de leurs besoins, conscience de leurs conditions, qui se tournent vers toi et qui reçoivent ton secours dans ta grâce. Seigneur, merci encore pour ta parole, et puissions-nous maintenant, en allant dans le monde et en vaquant à nos occupations, puissions-nous nous souvenir de ce que tu nous as enseigné et le mettre en pratique pour ta gloire. Amen.